La chevalerie, voilà, un mot qu'on entend prononcer à tort et à travers sans arrêt comme ça. Qu'est-ce que c'est pour vous la... Il n'y a rien à noter là. C'est une question que je pose, je ne vais pas noter les questions. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est pour vous la chevalerie ? Yvan, c'est pas là où on range les chevaux ?
Histoire 2.
La chevalerie, c'est avant tout l'abnégation.
Oh yeah. Ah, c'est très généreux de votre part, mon oncle.
Qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes barré !
Nous exprimons notre satisfaction.
Ah bah c'est quand même une bonne nouvelle.
Quoi ? Quelle nouvelle ?
Ah non, c'est le bal des nations.
De quoi ? C'est pas ça que vous avez dit ?
Abnégation. L'abnégation. Il s'agit d'une grande qualité des chevaliers qui leur permet de penser aux autres avant eux-mêmes.
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais c'est très décevant. Les chevaliers ne savaient donc pas ce qu'était la chevalerie. Heureusement que les historiens sont là pour leur expliquer. Celui qui fait le maître d'école dans l'extrait que vous venez d'entendre, c'est le roi Arthur lui-même, joué par Alexandre Astier dans l'un des épisodes cultes de la série Kaamelott. Portée au cinéma, elle a rassemblé plus de 2,5 millions de fans. Quand on enseigne le Moyen-Âge, et c'est mon cas, évidemment que ça intéresse. Alors on fait quoi ? On fait la fine bouche, on surjoue l'enthousiasme ? Ni l'un ni l'autre, bien entendu. On invite Alexandre Astier, non pour lui faire la leçon, mais pour parler avec lui de ce qu'est le Moyen-Âge aujourd'hui, ou plus exactement, de ce qu'il nous fait. Et en plus, on l'invite avec une médiéviste de renom, Zrinka Stahuljak, qui nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission avec la sociétaire du jour, Emmanuel Tixier-Duménil, pour prendre des nouvelles de la tradition arthurienne. Car c'est toujours ainsi avec les continuateurs de la matière de Bretagne. Et Alexandre Astier en est le dernier en date. Quand ils reviennent, c'est pour nous donner des nouvelles de notre propre rapport à la contemporanéité. On n'est pas là pour rire. C'est très sérieux, c'est même sans doute un peu grave, car cela parle de mélancolie politique et des simulacres de la société du spectacle. Et c'est maintenant sur Histoire 2. Alexandre Astier, bonjour.
Bonjour.
Il paraît que vous voulez qu'on dise de vous, vous êtes un musicien qui fait d'autres trucs.
Ouais, oui. Enfin, c'est quand on me posait la question, il a bien fallu répondre quelque chose.
Bah, mais c'est vrai que.
Eh bien, je pense que oui. Je pense que il me semble que au finish, le truc qui m'intéresse le plus, c'est le rythme et comment sonnent les choses. Alors, allons-y, plaçons la musique avant.
Ah, il y a un écrivain que j'aime bien, Pierre Michon, qui disait que le Moyen-Âge, ça donne toujours un son de casserole. C'est-à-dire que c'est à la fois sublime et toujours un peu ridicule. C'est le cas aussi lorsque vous le filmez, Alexandre Astier.
Alors, au début, il y a quelques petits anachronismes parce que je m'étais pas encore tout à fait décidé quant à la période du Moyen-Âge, en cas, quel Moyen-Âge j'allais parler. Et il y a un peu des gamelles, c'est vrai. Il y a un peu des gamelles, il y a un peu des armures du... 16e même des fois. Et puis au fur et à mesure de Kaamelott, je l'ai quand même placé au tout début du Moyen Âge. Et donc je les ai enlevés ces gamelles, ces casseroles là. Donc je fais un poil moins de bruit.
Les fans de Kaamelott, vous avez dit qu'ils sont dans une démarche identitaire, mais ça dépend des générations, non ? Il y avait les premiers épisodes en 2005 sur M6 qui faisaient 3 minutes et demie, puis en 2009 c'était beaucoup plus ample et beaucoup plus grave également.
Oui, et puis le film en a remis une couche dans la métamorphose encore. Mais je pense que c'est un truc vivant, tout simplement. Ça ne peut pas avoir bientôt 20 ans. Enfin, pas tout à fait, mais on s'en rapproche. Et ne jamais bouger. C'est-à-dire que c'est pas fait par quelqu'un qui exploite un fil. C'est plutôt, c'est comme ça me suit toute ma vie. Et que c'est quand même, ça tient beaucoup de choses que j'ai à raconter, même si je raconte d'autres choses. C'est normal que je fasse plus aujourd'hui ce que je faisais hier. Donc c'est sûr que ça change tout le temps, ce qui n'est pas tout à fait pour convenir à tous les fans. Les fans, généralement, préfèrent les choses qui tiennent en place et qui épousent la notion de nostalgie et qui leur rappellent ce qu'ils ont aimé, ce qui n'est pas ma démarche. Donc c'est normal que ça puisse, de temps à autre, selon certains, décevoir. C'est même prévu.
La nostalgie, parlons-en. Le dernier épisode, le 458e de M6, laissait Arthur au bord du suicide, renonçant au pouvoir. Lancelot, joué par l'excellent Thomas Cousseau, se conduit en tyran. Et là commence la résistance que vous traitez dans les 6 tomes de la BD Kaamelott Résistance. Puis le cinéma prend le relais, c'est le film dont on parle. Arthur revient, mais il revient comme vous êtes, Alexandre Astier, c'est-à-dire triste, mélancolique, Vous dites même dans certains interviews que vous êtes sans courage ni énergie vitale.
Oui, mais il y a beaucoup d'auteurs qui vous diront que c'est une manne, ça.
Ouais.
Il faut pas le louper. Quand on a le moral dans les pompes, généralement... Ça peut donner de très bonnes choses. Non, j'ai pas forcément le moral dans les pompes, mais je suis très... Alors déjà, pardonnez-moi, mais les BD ne traitent pas de la résistance. La BD se cantonne à être en saison 1.
Oui.
Le Kaamelott Résistance, c'est une époque... C'est 10 ans que j'aimerais beaucoup raconter, mais que je n'ai pas encore fait, parce que c'est en l'absence d'Arthur, tout ça, et comment tout ce monde-là s'organise, je ne l'ai pas encore fait. Mais le film, lui, oui, c'est vrai, il commence et il est tenu par un type qui n'a pas envie de revenir. J'aime beaucoup ces héros-là, qui reviennent un coup de pompe dans le derrière, et encore, il en faut 3, sinon il trouve un moyen de partir. De toute façon, ça se dit dans le film, hein, il se retrouve avec son royaume à l'ouest, au nord et au sud, et il veut partir à l'est. Ça veut bien dire que voilà, il trouve la faille, quoi.
Le Moyen-Âge, ça vous est venu comment ? Par quel livre ? Par quel film ? Vous êtes né en 74 en même temps que les Monty Python. Tiens, sacré Graal, j'imagine, c'est important.
Oui, certainement. Les Monty Python, je les ai connus par Flying Circus, quand Arte s'est pris de les diffuser hebdomadairement. Le Moyen-Âge en lui-même, moi, ça va vous paraître assez étrange, mais mon premier rapport avec le Moyen-Âge, c'est le jeu de rôle. Et c'est pas vraiment un Moyen-Âge historique, c'est un Moyen-Âge médiéval fantastique. C'est-à-dire celui de Tolkien un peu, quoi. Enfin, en tout cas, hérité de Tolkien. Et qui servait à fabriquer des scénarios. Donc, moi, c'est mon premier rapport avec ça. Et puis, avec la matière de Bretagne, c'est Marcal, moi, qui m'a mis sur la piste des choses. Parce que j'ai lu pas mal de trucs, évidemment. Mais Marcal m'a toujours plu dans son espèce de volonté encyclopédique qui a toujours été assez inspirante, parce qu'en fait, pour s'inspirer, pour écrire de la fiction, des histoires fausses, je pense qu'il faut pas trop s'inspirer d'autres histoires. C'est très difficile. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de mal. Alors que quelqu'un qui reste dans, l'encyclopédie, alors pas l'archéologie, parce que, enfin, on pourra en discuter, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'archéologie arthurienne. En tout cas, elle me semble très maigre et sujette à caution.
Problématique, oui.
Voilà. Mais par contre, Marcal qui fait cette espèce de bilan de la matière arthurienne sans trop juger d'où ça vient et en prenant ses auteurs du 10e au 20e siècle sans trop les préjuger et en les présentant tous au même niveau m'a beaucoup aidé.
Et les historiens, vous en avez lu ?
Pas vraiment, mais il y a des historiens qui se sont penchés sur Kaamelott.
Ah, ça,
et qui ont fait des ponts. Et ce sont des choses que j'ai lues, j'ai appris des choses, même si je dois bien admettre que la liberté que je prends avec la matière arthurienne est totale, et que du coup, c'est ce qui est assez pratique avec la mythologie, c'est qu'on peut jamais vraiment être dehors ni dedans, puisqu'elle est censée se continuer. Quand bien même je la continuerais très mal, il faut quand même admettre que je la continue.
Bah, c'est vrai que les historiens, ils vous regardent, ils vous utilisent. D'ailleurs, si on a pris cet extrait de la saison 3 où Arthur fait la classe à ses chevaliers, c'est parce que ça sert vraiment dans les cours à montrer ce que c'est qu'une catégorie comme la chevalerie qui n'est pas comprise par les acteurs eux-mêmes. Puis si je l'ai choisi aussi, c'est parce que je pense que l'école, c'est important pour vous. La transmission, c'est important. Vous avez fait une conférence qui s'appelle Exoconférence sur l'astrophysique. Vous avez écrit dans Society, je pense que si je devais prendre la parole un jour, ce serait sur l'école.
Oui, c'est possible. Mais c'est possible parce que je me retrouve, j'ai 47 ans aujourd'hui, je me retrouve, donc j'ai 7 enfants, donc la question de l'école, vous vous en doutez, s'est posée de temps à autre. Et je suis un garçon qui adore étudier, qui apprend dès qu'il a 5 minutes pour lui, en fait. Mon loisir, c'est vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau, donc il n'y a rien que j'aime plus que ça. Et cependant, j'ai été extrêmement malheureux à l'école, au collège. Et c'est une rancœur, je peux parler de rancœur, qui a du mal à passer. Parce que j'en veux un peu au système de m'avoir fait croire que j'étais pas fait pour apprendre, vu le nombre de trucs que j'encaisse avec le plus grand plaisir du monde et le plaisir avec lequel j'ai à parler de n'importe qui, avec n'importe qui en est un peu passionné. Et voilà, donc je trimballe une aigreur comme ça sur ces choses-là, parce que je pense que l'école gâche beaucoup de choses. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, parce que je pense que c'est extrêmement dur. de faire une bonne école, mais cependant, dans mon cas, c'est un sacré échec et ça a failli me faire croire que j'étais bon à rien. Alors, je le suis peut-être, mais c'était pas à eux de le dire, quoi.
Oui, je comprends, mais en vous écoutant, en fait, je comprends pourquoi Arthur, celui que vous campez dans les films, il engueule tout le monde, il est exaspéré par tout le monde, c'est parce qu'en fait, il est désespéré par la bêtise du monde. Vous écrivez dans l'Obs, je crois, que votre humour est une mince pellicule qui recouvre la noirceur du monde. C'est de cette noirceur et un peu de sa consistance politique, de cette mélancolie dont on va parler, si vous voulez bien, après la pause musicale, Alexandre Astier. On va vous retrouver, Emmanuel Tixier-Duménil. Vous êtes infatigable, c'est-à-dire vous avez revu tout Kaamelott et relu toute la matière de Bretagne.
Ne faites pas ça, il ne faut pas faire ça.
Mais je crois que c'est ce qu'elle a fait, franchement.
Non, Alexandre mais sérieusement.
Astier. Et alors, donc Arthur.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, dans la figure du roi Arthur, c'est que autant son histoire est floue, voire assez fumeuse, puisqu'on ne sait même pas s'il a existé, autant la légende, elle, est tout à fait solide. On la voit émerger, s'enrichir entre le XIIe et le XVe siècle, et elle est particulièrement bien documentée.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir après la pause musicale. Et Alexandre Astier, on vous gâte parce qu'on va également inviter une guest star. Elle vient de Los Angeles, c'est Zrinka Stahuljak. Holding on to faded stories, I memory the pain. Sorry's a wasted love, honey, a wasted love. I heard you say that things were falling out. Maybe all we need was talking. We wasted love, I'm a wasted love.
So what's with you? What's with you?
Vous avez compris le principe, en parlant du Moyen-Âge, on se demande, avec Alexandre Astier, ce que cela nous fait aujourd'hui d'en parler. On tente d'éclairer quelque chose de notre contemporain, c'est-à-dire notre rapport au passé, oui, mais aussi ce qui risque d'advenir. Alors, le Moyen-Âge, d'accord, mais lequel ? Dans Kaamelott, on a des Burgondes bariolés, un roi Arthur qui vient du 5e siècle, enfin, on n'y comprend rien, Emmanuel de Tixier-Duménil. Expliquez-nous.
Alors, revenons sur les quelques très rares éléments historiques. Alors, la geste d'Arthur est située à la fin du 5e, au début du 6e siècle après Jésus-Christ, dans l'île de Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne actuelle. Le contexte est celui du crépuscule de l'Empire romain, qui retire dans les premières années du 5e siècle ses légions, qui abandonnent littéralement l'île, pour venir défendre le cœur contre les invasions barbares, en vain d'ailleurs, puisque les Goths prennent et saccagent Rome en 410. Alors, sur l'île, les populations bretonnes plus ou moins romanisées s'organisent pour lutter contre les envahisseurs qui arrivent littéralement de toutes parts, et notamment de l'Est, du Danemark et du Nord de l'Allemagne actuelle. Et ce sont des peuples germaniques, notamment les Angles et les Saxons, qui vont donner par la suite leur nom à l'île, l'Angleterre, la terre des Angles. Alors les Bretons, qui sont des Celtes, résistent, puis se replient progressivement vers l'Ouest, en Cornouailles, au Pays de Galles, mais aussi dans la péninsule armoricaine, qui prend alors le nom de Bretagne, dans la France actuelle. C'est cela qui entraîne une seconde vague de celtisation, qui explique qu'on y pratique encore aujourd'hui une langue celtique. En ce qui concerne l'île de Bretagne, pratiquement aucune source écrite ne nous est parvenue pour cette période, et vraisemblablement n'est écrite pour cette période. Ce sont les Dark Ages, propice pour cela à toutes les projections, les fantasmes et du coup les œuvres de fiction. On sait juste que les conflits entre Bretons et Saxons, mais aussi à l'intérieur de chacun de ces deux camps, rythment avec fracas cette histoire obscure. Alors c'est dans ce contexte qu'aurait vécu un certain Arthur, dont le nom apparaît dans les récits des bardes et dans les légendes galloises dès la fin du VIe siècle, et la première mention écrite certaine d'un chef de guerre, d'un Dux Bellorum, nommé Arthur, se trouve sous la plume d'un clerc, peut-être nommé Nennius, qui aurait été l'auteur, vers 830, d'une histoire des Bretons, qu'il compose à la cour d'un roi gallois. Et les récits s'étoffent tout au long des 10e et 11e siècles, mais la légende arthurienne naît vraiment de l'imagination au 12e siècle d'un clerc d'origine gallois, Geoffroy de Monmouth, qui compose une histoire des rois de Bretagne, qui fait la part belle à Merlin, ainsi qu'à Arthur, qui aurait chassé les Saxons, qui aurait conquis la moitié de l'Europe. Et c'est, d'après l'historien Alban Gauthier, le best-seller du Moyen-Âge. Plus de 200 manuscrits médiévaux nous sont parvenus. Et des dizaines d'auteurs, dans tout l'Occident latin, reprennent cette légende, l'enrichissent, la complètent, formant ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Et l'autre très grand promoteur de la geste est Chrétien de Troyes, un clerc qui est à la cour de Marie de Champagne, la fille d'Aliénor d'Aquitaine, entre 1170 et 1190, met en scène le roi Arthur, cette fois entouré de ses chevaliers. C'est lui qui a introduit le motif du Saint Graal et en fait un roman de chevalerie. Et ce sont ces strates successives de récits, déposés jusqu'à nos jours et jusqu'à Alexandre Astier, qui rendent la légende du roi Arthur bien réelle.
Oui, bien réelle et au fond plastique, c'est-à-dire qu'on voit bien quel est ce qu'on en fait. Alexandre Astier, votre matière de Bretagne, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça serait pas plutôt la fin mélancolique? Je pense à La mort le roi Arthur, qui est d'ailleurs réédité sous une très belle traduction par Patrick Morand. Toutes les références, je le signale d'ailleurs, sont sur le site de France Inter. C'est-à-dire quand ça se termine, quoi. C'est-à-dire que, et quand ça s'achève dans un monde de simulacres, de parodies, un monde désenchanté, c'est ça votre monde à vous, Alexandre Astier?
C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression de absolument pas du tout avoir inventé un Arthur qui est entouré de chevaliers qui sont pas forcément à la page. C'est-à-dire que je pensais avoir fait quelque chose d'assez de funétien, avec un Arthur qui est chef et puis qui est le seul à voir clair. Mais en plus de ça, c'est le seul à être enseigné par la Dame du Lac. Donc, a priori, les enseignements sont assez fantomatiques pour tout le reste. Donc, il y a un problème de communication. Moi, j'ai l'impression d'aimer filmer les problèmes de communication. J'aime filmer et dialoguer les gens qui se comprennent pas, beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que je me suis organisé ça, mais il y a des choses qui, par exemple, dans la charrette, il y a des choses qui peuvent, et ça m'a surpris a posteriori, hein, il y a des choses qui peuvent nous faire dire que tout le monde n'est pas si malin que ça, que tout le monde ne sait pas pertinemment ce qu'est le Graal en permanence, que tout le monde ne parle pas de la même parole tout le temps, et que c'est assez, c'est pas forcément évident que tout le monde ait ses bateaux qui vont dans la même direction. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas si neuf que ça, cette atmosphère-là. Et pour répondre à votre question un peu plus précisément, oui, moi je pense que il y a une mélancolie, et mon Arthur, je l'ai fait venir élevé à Rome, que je considère comme un pays très libre, sous tout point de vue. Je l'ai même comparé à une New York des années 60-70 pour nous, pour essayer de d'y faire l'éducation d'Arthur dans un monde qui est très libéral, très et puis très très ouvert, à la limite du décadent. Et puis je l'ai fait arriver dans le monde de Bretagne avec des réactionnaires. Kaamelott, c'est quand même l'histoire d'un progressiste qui doit diriger des réactionnaires qui en plus ont du pouvoir sur lui dans la fédération et qui peuvent l'ennuyer tous les jours s'ils le veulent.
Alors, Zwinkast a eu le Jacques. On parle des États-Unis, on parle, et d'ailleurs, Jacqueline Kennedy disait de son mari défunt qu'il vivait à Kaamelott, hein, c'est-à-dire que c'était une sorte de parenthèse enchantée, progressiste, cernée par les réactionnaires. Il y a aussi cette mélancolie. Vous vivez à Los Angeles, la capitale mondiale de la fiction, donc la fiction médiévale. Vous connaissez, vous savez ce que c'est que le Graal?
Bien sûr, je sais ce que c'est le Graal. C'est un objet imaginaire qui nous fait rêver, qui nous lance à aller chercher les choses. C'est une quête permanente, c'est une quête des aventures, c'est une quête des merveilles. C'est un monde enchanté que nous rêvons encore aujourd'hui. Je dirais juste que ce monde désenchanté que dont vous parliez, Patrick Boucheron, là à l'instant avec Alexandre Astier, c'est un monde qui s'insère à l'intérieur des 12 ans de paix que Arthur réussit en fait à installer dans son royaume. Donc c'est le moment des merveilles de Bretagne. Et en fait, la fin de ce monde, c'est quand les merveilles disparaissent. Et donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on justement on voit le film et le film cherche peut-être à retrouver dans ce retour d'Arthur, cherche à retrouver finalement un désir, un besoin de vivre. Et ce qui m'a frappé dans le film, c'est la façon dont vous, Alexandre Astier, vous par exemple, il y a un de vos personnages dans le film qui dit « le désir de savoir n'a pas besoin de contexte ». Mais le désir
vous savez
de
quoi sa...
oui,
vous savez pardon. Quoi on l'a cet extrait. Vous voulez l'entendre?
Ah, je veux bien.
Allez,
l'entendre.
On y va.
On a vu le début, on a vu la fin.
Je vois même pas pourquoi on reste là à regarder.
Libido Siendi, le désir de savoir.
Oui, un peu tiré par les cheveux dans le contexte, mais...
Le désir de savoir, a-t-il vraiment besoin de contexte ?
Je comprends pourquoi ça vous plaît, parce que là, c'est vraiment Lacanau postmoderne. Qu'est-ce qui vous a pris, Alexandre Astier, là, vous citez qui ? Parce que des fois, vous faites des citations du Tristan en prose, enfin des choses, et puis, mais là, vous citez qui ?
Non, là, je cite personne. C'est juste que c'est Rollin et Clavier là qui sont en train de discuter à la fenêtre. Rollin et Clavier, il faut quand même les doter d'un certain verbe. Ils sont un peu obligés de parler pour rien dire, quoi. Non, là, ils sont en train de défendre le savoir, mais je pense pas qu'ils le pensent très profondément. Hein. C'est plutôt le plaisir de faire des phrases.
Oui, et puis surtout, ils sont en train de regarder des Burgondes s'agiter sous leurs murs. Ils les regardent comme nous, on regarde les chaînes d'information en continu, c'est-à-dire c'est répétitif, c'est vain, c'est nocif, on le sait, mais on peut pas s'en empêcher. Et c'est quand même effectivement, voilà, ce qui vous intéresse, Zwinkast à Uljak, dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire, ça fait surgir quelque chose de notre rapport embarrassé aux contemporains.
Il y a plusieurs façons d'utiliser le Moyen-Âge. Évidemment, ce film en est une façon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait, on va dire, chercher à savoir ce que le Moyen-Âge peut nous dire sur le contemporain. Évidemment, le Moyen-Âge, ça pourrait être une leçon, ça pourrait être une concordance des temps, mais ce que je pense qui est très intéressant pour nous, c'est tout simplement de pouvoir poser des questions qu'on n'a pas posées avant. Et c'est le Moyen-Âge peut le faire. Alors, est-ce que ça veut dire que le désir de savoir n'a pas besoin de contexte ? Il est évident que si... Moi, ce qui m'a frappé dans cette phrase, c'est bien sûr qu'il y a une envie de savoir. Ça, c'est évidemment l'histoire du Graal, c'est l'histoire de Perceval. Perceval, c'est un personnage qui ne sait rien, mais qui a cette pulsion de connaître cette pulsion de curiosité. Alors, est-ce que le Moyen-Âge, est-ce que ça veut dire que le Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge de pulsion? Ou est-ce que dans cette quête des aventures, de chercher quelque chose qu'on ne trouve pas, parce que finalement, ça aussi, c'est une citation de Chrétien de Troyes, qu'est-ce que c'est qu'une aventure chevaleresque, qu'est-ce que c'est une aventure arthurienne? Bah, c'est chercher ce que je ne trouve pas, dit le chevalier errant. Bah oui, mais finalement, on va trouver quelque chose, et c'est celle-là où je pense que le Moyen-Âge est cette question qu'on pose aux contemporains pour que finalement on puisse apercevoir quelque chose de notre propre présent, ce qu'on ne pourrait pas autrement ni voir ni vivre.
Emmanuel Tixier-Duménil, vous enseignez l'histoire du Proche-Orient médiéval, de l'islam médiéval, et évidemment, on ne peut pas ne pas voir que le Moyen-Âge, quand on l'invoque, ça sert d'abord... j'irais à faire la guerre. Et là, il y a des usages quand même divers du médiévalisme politique. D'une certaine manière, on est aussi sur cette question-là avec Kaamelott. On est sur la guerre.
Je pense qu'effectivement, c'est l'une des vertus des fictions qui reprennent la période médiévale que de pouvoir exposer la violence et la guerre. Que ce soit Viking, que ce soit Game of Thrones, que ce soit Arthur. Bon, ils la font finalement assez peu, cette guerre, y compris dans le film où ça les fait rigoler de voir les Visigoths. Et ils sont assez... ils sont gratinés quand même dans le film. Hein. Bon, alors il y a tous les marqueurs de la barbarie. Ils ont des costumes, des langues incompréhensibles. Ils ressemblent presque un petit peu aux Mongols. Mais je pense que le Moyen-Âge permet... déjà de faire porter à des acteurs des peaux d'ours avec une démarche complètement testostéronée et que c'est un magnifique motif pour un film.
Zrinka.
C'est pas le seul. C'est ça qui est très intéressant, je pense, avec le Moyen-Âge. On a des idées reçues ou des idées qu'on peut travailler. Donc la guerre, la violence en est une, mais l'amour courtois en est le deuxième. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit bien dans votre film, Alexandre Astier, c'est qu'on a la guerre, bien sûr, mais on a l'amour courtois qui d'ailleurs est très très chaste, finalement. Il est très idéalisé. Et ça, je pense que c'est un contraste qu'on retrouve à chaque fois pour ce Moyen-Âge. Alors est-ce qu'il était donc barbare? Où est-ce qu'il était civilisé? Est-ce qu'il était courtois? Comment ce Moyen-Âge de contraste, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le raconte à la fois? Qu'est-ce que donc, encore une fois, utiliser ces deux phénomènes qui ont été bien sûr interprétés, étudiés, etc. Qu'est-ce que utiliser ces deux phénomènes nous dit, encore une fois, sur le contemporain, sur nous, puisqu'on a besoin à la fois de faire la référence à cette guerre et à cette violence, et à un amour idéalisé tel que l'amour courtois médiéval.
Alexandre Astier, vous n'êtes pas dans le studio, hein, vous êtes en duplex à Lyon, oui. C'est pour ça que vous pouvez pas protester pour prendre la parole, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Je veux la parole.
Ah ben alors prenez-la, mon Dieu.
C'est simplement que il y a dans les lieux communs sur le Moyen-Âge, on peut dire en le survolant comme ça, qui c'est 1000 ans, arrêtez-moi si j'ai dit des bêtises, c'est 1000 ans qui vont de la chute de l'Empire romain à la Renaissance. Et du coup, il est donc ce Moyen-Âge pris dans l'inconscient collectif en serre-livre, entre une époque romaine qu'on dit ultra-civilisée, y compris dans l'art de la guerre, et la Renaissance qui est le goût de savoir, justement. Est-ce qu'on ne fait pas porter à ce Moyen-Âge une espèce de, comment on pourrait dire, d'immobilisme de la pensée, systématique et long, et de 10 siècles, qui fait que, en gros, Rome s'est éteinte, on dort, on hiberne, et on se réveille après pour découvrir ce que c'est que l'électricité ou peu s'en faut. Est-ce que vous, qui parlez de Moyen-Âge tout le temps, est-ce que vous trouvez pas qu'il règne comme ça dans l'inconscient collectif de celui qui ne l'étudie pas suffisamment, un Moyen-Âge hiberné?
Zrinka Stahuljak.
Je pense que vous avez raison, ça c'est exactement le lieu commun du Moyen-Âge, un Moyen-Âge sombre. Mais il me semble que... il y a une autre chose qu'on pourrait rajouter à ça, et peut-être c'est d'ailleurs la cause pour laquelle c'est une perception qui s'est imposée finalement, et on le dit souvent sans raison. On dit que c'est la Renaissance qui l'impose. Au fond, non, c'est finalement le 19e siècle qui impose ça. Et on pourrait rajouter à ce que vous avez dit, Alexandre Astier, encore une chose, c'est que le Moyen-Âge est dit ne pas avoir la conception de l'histoire. C'est-à-dire, justement, là, si on parlait du médiévalisme, médiévalisme. On pourrait parler du médiévalisme comme quelque chose qui n'est pas forcément historique, mais qui fait référence au passé. Alors, donc c'est d'autant plus justifié puisque le Moyen-Âge dit vivre dans son présent et dans la continuité avec l'Antiquité sans se rendre compte de sa propre historicité. Et donc, ce mélange des temps où le présent et le passé, et où les médiévaux, on va dire les gens médiévaux, se pensaient, même les penseurs, les théologiens, se pensaient dans une forme de continuité quand même avec Rome, avec l'Antiquité, qu'il n'y avait pas vraiment de rupture, que cette donc non-historicité du Moyen-Âge permettrait d'autant plus pour nous, à ce que nous faisons avec le Moyen-Âge, d'être libre sans ce contexte histoire passée.
Dans Médiéval Contemporain, Zrin Castahul-Jacq, vous jouez des anachronismes, c'est un livre qui est paru chez Macula l'année dernière, des anachronismes contrôlés de ce que vous appelez l'anamnèse, pour voir, je vous cite, ce que le Moyen-Âge fait surgir dans le contemporain, ce que le contemporain fait surgir du Moyen-Âge. Et c'est exactement de ça dont on parle, c'est ce qu'on peut appeler le médiévalisme. Pour le comprendre, écoutez un extrait du film. Il y a Arthur, là, qui se dirige vers le rocher sacré, où est fiché Excalibur. Et alors, tu parles de sacralité. En fait, c'est une foire où chacun fait commerce de fiction, de souvenirs, de croyances. Prêtez l'oreille, c'est un peu le bazar.
Mais qu'est-ce que c'est que tous ces clampins? Qu'est-ce qu'ils fichent là?
Les serpents et le chauve-souris et le grand merlin commandera au vent et aux éclairs.
Hé, les jeunes, des petites figurines en bois. Il y a Arthur, il y a Lancelot, il y a Merlin, il y a Guenièvre.
Excalibur, Excalibur, la tisane des dieux. Un remède miracle pour les ballonnements et les ongles incarnés.
Ainsi que pour les douleurs dentaires et les douleurs plantaires.
Alors qu'est-ce qu'on choisit dans ce marché du médiévalisme, Zrin Castahul-Jacq?
On prend un peu de tout, peu évidemment. De tout. Je pense que c'est exactement, enfin, j'ai vraiment adoré cette scène, mais ça dit quelque chose sur notre temps, je pense, sur l'économie du marché. Hein, on peut tout acheter, tout est à vendre, même la dame du lac, qui est quand même une grande dame élégante dans l'histoire arthurienne, elle est là pour vendre ses histoires, et on recycle un peu comme peut-être la table ronde qui est faite des matières récupérées.
Ah oui, on a vu ça aussi dans votre film Alexandre Astier, la table ronde, elle est...
Oui,
elle est remployée, récupérée.
Oui, et c'est une qualité qui le surprend. Et pour tout vous dire, comme le film met en scène un Arthur qui ne veut pas revenir et qui ne veut certainement pas reprendre les rênes de cette table ronde, le seul élément, enfin en tout cas, c'est celui que j'ai trouvé qui m'a plu, hein, celui que j'ai trouvé qui pouvait le ramener, pas, qui pouvait le faire douter de se réasseoir à une table ronde, c'est la modestie et la grande humilité avec lesquelles des gens d'aucun pouvoir, hein, parce qu'il y a même des enfants, on a recruté des gamins, des paysans qui étaient là pour essayer de reconstituer une table ronde de fortune en son absence. Quand il voit ce travail qui a été fait par des gens qui n'ont aucun talent particulier, ni pour l'aventure, ni pour la quête, ni pour le don de soi, ni pour... mais qui voit l'humilité de cette table ronde qui est faite de briques et de brocs, hein, chacun ramène un bout de tabouret, un morceau de table pété, et puis essaye de mettre ça en rond, là il est obligé de toucher. Il est obligé d'être touché parce que c'est la table ronde qui est incontournable, c'est celle qui est faite avec l'honnêteté du cœur et qui est sans aucune ambition. Ce qui se rapproche de ces notions de la chevalerie, et ça, il est obligé de le voir.
Mais en vous écoutant, Alexandre Astier, je crois mieux comprendre ce que vous avez déclaré, par ailleurs, dans certains entretiens, que Kaamelott défendait la dignité des faibles, ce qui n'est pas évident, parce que vous vous mettez en scène en engueulant tout le monde, mais on comprend mieux, au fond, pourquoi. J'ai lu dans Libération, qui a tenté de faire votre portrait sans parvenir à vous faire parler politique, vous y avez seulement concédé: je suis très bien dans ma position de raconteur qui finit de toute façon par être politique. C'est de ça dont on a parlé, non? Finalement, c'est que vous parlez quand même d'un monde où ceux qui sont moins bêtes et moins méchants que les autres sont toujours au bord de renoncer.
Ah oui, je pense que bien sûr, on parle d'un monde où ceux qui ont la petite flamme de vouloir faire des choses avec honnêteté sont forcément entourés et ensevelis de ceux qui veulent en faire profit, de ceux qui veulent que les choses fonctionnent à tout prix, de ceux qui veulent que les gens soient performants, que d'ailleurs l'antagoniste héréditaire d'Arthur, c'est Lancelot du Lac, qui dans mon histoire est le représentant de l'élite. Lui, il pense que le Graal se trouve avec l'élite, avec les armées entraînées, avec les gens qu'on paye cher, avec la frime. Et Arthur en face, lui, c'est lui son credo, c'est de dire, faut y arriver avec ce qu'on a. Il faut y arriver avec tout le monde et surtout ceux qui savent pas faire. Alors après, la part comédie se charge de mettre en scène ceux qui savent pas faire pour qu'ils sachent réellement pas faire et pas faire du tout. Mais n'empêche qu'il s'agit bien de ce combat-là.
C'est donc il y a encore
de l'élite
boulot.
Contre le. Ah, non, mais il y a du boulot. Je serais mort avant que ce soit fini, bien entendu.
Et c'est Sting justement qui va avoir le mot de la fin.
Alors, la quête du Graal. On commence quand?
C'est vrai, ça, on commence quand? Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée à Lyon par Claire Vuillot et Chantal Nouvelot, et ici, à Paris, c'était Mathis Alléon qui était derrière la console. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons du résistant Daniel Cordier avec l'historien Laurent Douzou. Bon dimanche sur France Inter.